L'historien des hautes époques de la civilisation mésopotamienne ne dispose pas de chroniques qui raconteraient, même de façon biaisée, les événements les plus marquants. Il doit donc apprendre à questionner les écrits qui nous sont parvenus autrement que par la critique de récits déjà élaborés, comme le font les spécialistes de la Bible ou des auteurs grecs et latins. C'est d'un certain point de vue un avantage. L'assyriologue n'a pas à se livrer à l'épuisante Quellenforschung, cette recherche des sources utilisées par les auteurs anciens qui a longtemps obnubilé ses collègues biblistes, hellénistes ou latinistes. Il dispose pour l'essentiel de témoignages contemporains, en particulier celui des documents d'archives. Cependant, ces textes ne sont abondants que pour les périodes qui précèdent les moments de rupture. Ce sont généralement les phases immédiatement antérieures aux destructions qui sont le mieux documentées. À mesure qu'on remonte dans le temps, la documentation devient de moins en moins abondante et de ce fait, les débuts demeurent par nature mal connus. Tel est bien le problème que pose l'événement auquel je voudrais consacrer ma communication. Au tournant de la fin du 3e et du début du 2e millénaire avant notre ère, qu'on a coutume de décrire sous le nom de migrations amorites. Comme vous pouvez le constater, je donne à ma communication un titre plus précis que celui que j'avais proposé il y a quelques mois et qui figure dans le programme, car il se trouve que l'assyriologue peut directement contribuer au débat actuel qui touche à la construction de murs anti-migrants. Nous allons d'abord voir quelles sont les données disponibles à propos de ce mur édifié dans le centre de l'Irak actuel, dans le troisième quart du 21e siècle avant notre ère. Dans un deuxième temps, nous analyserons l'importante présence amorite qui peut être constatée en Mésopotamie dans les siècles qui ont suivi, et nous terminerons par une analyse critique de la reconstitution de ce qu'on a appelé les invasions amorites. Le point de départ de l'enquête est constitué par ce que les spécialistes appellent des noms d'années. Il s'agit d'un système de datation dans lequel, au lieu de numéroter les années de règne d'un souverain, on les désignait par une formule qui commémorait un événement de l'année qui s'était écoulé. Des listes étaient tenues à jour régulièrement par les scribes qui permettaient de retrouver la séquence chronologique de ces noms d'années. Or, le roi d'Ur, Shulgi, désigna sa 37e année de règne, 2056 avant notre ère, par cette formule, année où le roi Shulgi a bâti le mur du pays. La construction de ce mur dénote manifestement la volonté de protéger le pays de Sumer par rapport à une menace extérieure. Un quart de siècle plus tard, Shushin, petit-fils et deuxième successeur de Shulgi, commémora une action semblable dans le nom de sa 4e année, donc en 2032. Cette formule a parfois été écrite par les scribes de manière abrégée, année où le mur des Amorites a été bâti, mais d'autres scribes notèrent une formulation plus longue, année où Shushin, roi d'Ur, bâtit le mur des Amorites, nommé qui éloigne les Dithnoum. Les murs, en effet, recevaient, comme les temples, comme les statues et bien d'autres réalités, des noms propres. Qui étaient donc ces Amorites auxquels appartenaient les membres de la tribu des Dithnoum? Une inscription du même roi Shushin, brosse 2, un portrait peu flatteur. Alors, les Amorites, un peuple destructeur aux instincts bestiaux, tels des loups qui, peut-être, attaquent les enclos à moutons, peuple qui ignore la culture du grain. Et puis, malheureusement, le manuscrit est ensuite lacunaire, mais on voit clairement que deux caractéristiques principales de ces Amorites sont ici décrites. Il s'agissait d'éleveurs nomades, qui sont définis négativement par le fait qu'ils ignorent l'agriculture, et c'était des prédateurs. On retrouve ici un écho du classique antagonisme entre les agriculteurs sédentaires et les éleveurs nomades. Cependant, la menace devait être plus grave que de petits raids, des escarmouches, pour que, à 25 ans de distance, deux rois aient éprouvé le besoin de bâtir un mur pour protéger leur pays contre les attaques de ces Amorites. Malheureusement, l'archéologie n'a jusqu'à présent pas retrouvé de vestiges de ce mur qui aurait permis de déterminer son emplacement et son tracé. En revanche, en 1998, Bernard Geyer et son équipe du projet Marges Arides ont découvert un mur de ce genre dans les steppes de Syrie occidentale, à l'est de Hama, qui nous permet de mieux comprendre de quoi il pouvait s'agir. Non pas une muraille infranchissable, mais une barrière de séparation en pierre sèche d'une largeur de 80 cm à 1,10 m. Le dispositif semble avoir été complété par des points de passage à intervalles réguliers permettant de contrôler les allées et venues des nomades et de leurs troupeaux. Ce mur a pu être suivi sur 220 km, il est représenté sur cette carte en bleu. Selon les endroits, la pierre utilisée est de nature basaltique ou calcaire en fonction des ressources locales. Il pourrait avoir été surélevé en terre crue, mais sa faible largeur a fait estimer qu'il ne devait pas dépasser en hauteur 1 mètre à 1,50 m. La date de sa construction n'est pas certaine, car la prospection n'a malheureusement pas pu être complétée par des fouilles. Il semble néanmoins que ce mur ait été édifié à la fin du 3e millénaire, sans qu'on puisse décider s'il remonte à l'époque d'Ebla, c'est-à-dire le 23e siècle, ou s'il est contemporain de la 3e dynastie d'Ur au 21e siècle. Bernard Geyer a insisté sur un point, je cite, « L'hypothèse la plus plausible est celle d'un mur délimitant le territoire d'une cité et ou d'un royaume, marquant une limite permanente ou saisonnière que doivent respecter les tribus nomades lors de leur déplacement avec leurs troupeaux. » Et il a insisté, je cite à nouveau, « Il convient de rappeler le caractère non défensif et non militaire de ce mur, qui dès lors n'aurait pu avoir qu'un caractère dissuasif, probablement peu convaincant, face à une armée d'invasion. » Par conséquent, le mur des Amorites bâti par les rois d'Ur devait se présenter de manière différente, puisqu'il est clairement destiné à repousser des invasions, et par le fait aussi que la pierre n'était pas disponible dans la plaine mésopotamienne. On a des détails qui sont donnés par la correspondance royale de l'époque, mais les lettres qui nous sont parvenues ne sont pas des originaux. Il s'agit de tablettes recopiées à titre d'exercice dans les écoles au XVIIIe siècle et l'authenticité de ces documents a été très discutée. Alors, à partir de ces textes, un tracé probable du mur a été proposé, qui est ici représenté en vert sur cette carte, qui part de la vallée de la Diyala, qui passe au nord de l'actuel Bagdad et qui protège la rive droite de l'Euphrate jusqu'à la latitude de Babylone. Mais il ne s'agit que d'une hypothèse. Étant donné le caractère incertain des informations issues de la correspondance, on s'est demandé si les archives contemporaines, qui sont très abondantes, ne livraient pas des indices de la construction du mur. La réponse a été généralement négative, mais on doit ajouter que c'est le cas pour la très grande majorité des constructions des rois d'Ur. Cependant, Walter Salaberger a montré qu'aussitôt après l'édification du mur par Schulgi et pendant une douzaine d'années, de nombreux textes comptables enregistraient ce qui est décrit comme butin amorite et qui comprend en particulier des ovins à grosse queue. Il s'agit d'une espèce adaptée à la sécheresse de la steppe, la queue servant de réserve pour la graisse et l'eau, un peu à la manière des bosses des dromadaires. La présence de ce butin pourrait être l'indice que le mur aurait permis un meilleur contrôle des nomades amorites ainsi que le prélèvement d'une partie de leurs ressources. Pour finir, on doit signaler que ces deux noms d'années sont sans parallèle dans les siècles qui ont précédé et qui ont suivi et que leur existence même montre l'importance de l'opération. Elle semble avoir été un succès à court terme. On possède en effet la copie d'une inscription de Choussin qui rappelle la construction du mur de cette manière quand il bâtit le mur des Amorites, nommé qui éloigne les Ditnoum, et fit revenir le pied des Amorites dans leur pays. Je donne ici une traduction en mot à mot, mais l'expression « le pied » peut, selon les contextes, désigner une caravane commerciale ou une expédition militaire. Le roi se vante donc d'avoir, grâce à l'édification de ce mur, fait revenir les Amorites dans leur pays. Il est bien ici question de repousser l'attaque d'envahisseurs. Ce succès ne dura pas. Sous le dernier roi d'Ur, le territoire contrôlé par Ibicine se réduisit comme une peau de chagrin. Le coup de grâce fut donné par les Élamites venus d'Iran qui se retirèrent aussitôt après leur campagne victorieuse vers 2400. Juste après la disparition du royaume d'Ur, des rois d'origine amorite s'installèrent à Larsa, puis autour de 1900, dans toute une série de petits royaumes amorites se constituèrent en Mésopotamie, du sud et du centre, et notamment à Babylone, tandis que la haute Mésopotamie paraît presque entièrement amoritisée vers 1800, à l'exception d'Achour. Comment peut-on analyser cette situation ? Du point de vue politique, plusieurs dynasties se revendiquèrent explicitement comme d'appartenance amorite. C'est ce que montrent des listes d'ancêtres, notamment ceux évoqués lors des offrandes faites aux morts. On constate que les ancêtres du roi des Kallatoum en Haute-Mésopotamie, Samsi-Adou, ou ceux du roi de Babylone, Amitsadouka, sont identiques. Parmi eux figure Ditanoum, qu'il faut manifestement comprendre comme l'ancêtre éponyme de la tribu amorite des Ditnoum que nous avons rencontrée tout à l'heure. Dans leur titulature, certains rois revendiquent explicitement leur appartenance tribale. C'est ainsi que plusieurs rois d'Uruk se sont proclamés rois d'Uruk, rois d'Amnanoum. Ils se définissaient à la fois comme souverains d'une des plus vieilles cités sumériennes, Uruk, et comme chef d'une des tribus amorites bien connues. De son côté, le roi de Mari, Yardunlim, est défini comme roi de Mari et du pays des Simalites, ces derniers constituant un des plus importants groupes tribaux amorites. Dans une civilisation où on s'oriente au sens propre, c'est-à-dire en ayant en face de soi non pas le nord comme nous, ce qui est tout à fait illogique, mais on s'oriente avec l'Orient devant soi, eh bien, les Yaménites, c'étaient les fils de la droite, c'est-à-dire les gens du sud, alors que les Simalites étaient les fils de la gauche, c'est-à-dire les gens du nord, sans qu'on sache à quel moment cette séparation entre ces deux grands groupes amorites se produisit, ni comment d'autres tribus se comprenaient par rapport à cette dualité. Que la population en Mésopotamie, après 2000 avant Jésus-Christ, ait été constituée de deux groupes, les Akkadiens et les Amorites, semble indéniable. Alors que les Akkadiens étaient présents depuis le milieu du troisième millénaire au moins, les Amorites faisaient figure de nouveaux venus. On voit ça clairement à Eshnouna, juste après la chute d'Ur, avec la permanence d'épisodes hostiles entre Amorites et habitants des villes de ce royaume. Par exemple, un correspondant alerte un voisin sur un danger imminent. Zirada a pris 2000 Amorites et il marche contre toi. C'est urgent, ne fais aucun travail, mais que pendant la nuit et à l'heure de la sieste, la garde ne descende pas du mur. Une autre lettre tente au contraire de rassurer le roi d'Eshnouna sur la situation dans la ville où se trouvait l'expéditeur. La troupe va bien, la ville va bien, la garnison de Monseigneur est forte. Même si les Amorites faisaient la guerre pendant 10 ans et s'ils apportaient 10 béliers, 10 tours de siège et 20 échelles de siège, je resterai fort dans ma ville, que Monseigneur ne s'inquiète pas. L'insistance même de cette missive montre bien la dangerosité des troupes amorites et la crainte que suscitait leur approche. Dans ces contextes, les Amorites sont décrits comme des éléments hétérogènes et hostiles. Mais quelques décennies plus tard, leur intégration est visible. On voit le fils du principal chef amorite de la région épouser la fille du roi d'Eshnouna, tandis qu'à l'inverse, un prince d'Eshnouna épousait la fille du même chef amorite. Et on peut penser que ces intermariages ne se limitèrent pas aux membres des familles royales. Cependant, 2 siècles plus tard, on décrivait encore le roi de Mari Zimrilim comme roi des Akkadiens et des Amorites. Et au milieu du XVIIe siècle, l'édit du roi de Babylone, Amitsadouka, mentionnait encore comme une dualité acadien ou amorite dans plusieurs paragraphes comme celui-ci, quiconque a prêté du grain ou de l'argent à un acadien ou à un amorite, selon une formule qui manifestement veut dire à n'importe quel habitant, quelle que soit son origine. Alors nous savons que cet édit recopie des textes plus anciens, dont l'original doit remonter au milieu du XVIIIe siècle, ce qui signifie que la dualité de la population s'était peut-être atténuée par la suite, mais elle était encore ressentie comme telle au milieu du XVIIIe siècle. Et cela s'explique avant tout pour des raisons linguistiques. Les habitants de la Mésopotamie parlaient, depuis la fin du IIIe millénaire, l'akkadien, le sumérien n'étant plus qu'une langue savante et religieuse. Les amorites, quant à eux, parlaient une autre langue sémitique, explicitement décrite comme amorite et distinguée de l'acadien, comme le montre cette description d'un messager trilingue dont on dit « cet homme maîtrise la langue des Acadiens, des Amorites et des Soubaréens ». Il est ici question de parler ces trois langues, mais l'amorite ne fut jamais mis par écrit, malheureusement. Nous ne connaissons l'amorite que par des noms propres et quelques dizaines de termes techniques. À titre de comparaison, j'évoquerai le cas de la Corse. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le corse était parlé dans l'île avec des variantes locales, mais jamais écrit. C'est seulement l'italien, plus précisément le toscan, qui était la langue écrite. bien, mutatis mutandis, il en allait de même dans la Mésopotamie du début du deuxième millénaire. La seule langue écrite était l'akkadien, qui était par ailleurs parlé par de nombreux habitants. Et l'existence de bilingues parlant à la fois l'akkadien et l'amorite est attestée, même s'il nous est impossible de dire quelle était la proportion de la population qui était bilingue. Par ailleurs, il est juste de dire qu'il ne faut pas confondre genre de vie et appartenance ethnolinguistique. Il n'empêche que les exemples clairs où la maîtrise de la langue amorite est jugée indispensable par les responsables au début du XVIIIe siècle ont trait au contact avec les nomades, qu'il s'agisse de discuter avec un chef yaménite de la région des boucles de l'Euphrate ou des nomades à recenser au cœur du triangle du Khabour. Donc, dans ces cas-là, les nomades ne comprennent que l'amorite et ne comprennent pas l'akkadien, d'où la nécessité de savoir parler aussi l'amorite. Est-ce qu'on peut voir la répartition spatiale de ces deux groupes, akkadien et amorite ? Michael Streck s'est lancé, voici quelques années, dans une entreprise de cartographie des amorites. Il a réparti les zones en quatre catégories en fonction du pourcentage de noms amorites dans l'ensemble des noms de personnes attestés par les textes qui ont été retrouvés sur les différents sites. Alors on a du plus clair au plus sombre, moins de 5%, entre 5 et 10% de noms amorites, entre 10 et 30%, et finalement, en noir, entre 50 et 90%. C'est un travail qui repose sur des dépouillements considérables, plus de 17 000 noms propres, mais qui me semble méthodologiquement délicat pour deux raisons. D'abord parce qu'il repose sur le postulat que quelqu'un qui porte un nom amorite parle amorite, eh bien, nous savons, quand on peut contrôler, que ça n'est pas toujours le cas. Par exemple, le roi de Mari Yasmaradou porte un nom qui est amorite, mais une lettre nous dit explicitement qu'il ne savait pas parler cette langue. Mais surtout, cette étude ne tient pas compte de la nature des sources. S'agissant du royaume de Mari, nous disposons de recensements de nombreuses localités de la vallée du Moyen-Euphrate. Donc on a vraiment une image de la population, tandis que si l'on regarde les villes de Nippur et d'Issine, eh bien les textes appartiennent en majorité aux archives de très riches familles de prébendiers où la tradition sumérienne était très forte, puisque c'est des gens qui étaient rattachés aux temples et aux traditions religieuses anciennes. Et il n'est donc pas étonnant que la proportion de noms amorites soit plus considérable dans le premier corpus que dans le second, et il y a fort à parier que la proportion des noms amorites augmenterait si nous pouvions avoir accès aux noms des habitants des villages des environs de Nippur, comme c'est le cas de Mari. Alors, comment se passait la cohabitation entre Akkadiens et Amorites au milieu du XVIIIe siècle ? On a d'un côté des descriptions très négatives des Amorites dans la littérature sumérienne. Je me limiterai aujourd'hui à une seule citation. Maintenant, leurs mains sont destructrices, leurs traits sont ceux de singes, c'est restitué d'après un parallèle, ils mangent le tabou du dieu Nana, ils n'ont pas de crainte, dans leurs déplacements constants, il n'y a qu'une, étant l'abomination des dieux, leur raison est confuse, ils ne causent que des troubles, un peuple vêtu de sacs en cuir qui vit sous une tente, frappé par le vent et la pluie, qui ne fait pas de prière, qui habite les montagnes, qui ne connaît pas les places des dieux, un peuple qui déterre des truffes au pied des montagnes, qui ne sait pas plier le genou, qui mange de la viande crue, qui de son vivant n'a pas de maison et à sa mort ne sera pas enterré. Alors un bel exemple du mépris de l'autre qui se manifeste ici par des observations en matière de pratiques religieuses, de modes de vie, de coutumes vestimentaires et alimentaires. Mais je voudrais souligner que ces stéréotypes remontent en fait à la fin du troisième millénaire. On en a déjà vu une description tout à l'heure dans une inscription du roi d'Ur, Shushin. Et on a bien l'impression de descriptions traditionnelles, indéfiniment recopiées dans les écoles, un bel exemple de décalage entre les représentations et les réalités contemporaines. Et de fait, les archives de Marie, qui sont constituées avant tout de lettres, et non pas de textes scolaires, nous montrent une image bien différente. Les relations entre nomades et sédentaires se vivaient le plus souvent sur un mode apaisé. La population d'alors était répartie en deux catégories, d'une part les habitants des villes et des villages, et d'autre part les gens qui parcouraient la steppe. Donc un cas de ce qu'on peut appeler en sociologie du dimorphisme, avec comme définition classique de cette situation l'opposition entre deux segments qui sont socialement hétérogènes mais économiquement complémentaires, les éleveurs donnant notamment la laine en échange du grain des agriculteurs. Mais dans le cas que Marie nous documente, la coupure peut passer à l'intérieur même de l'organisation clanique. On a une partie des membres qui cultivent des champs dans un village, tandis qu'une autre parcourt les territoires de pâture avec ses troupeaux d'ovins. Donc l'hétérogénéité sociale n'existe que du point de vue du mode de vie et pas du point de vue de l'appartenance tribale. Si on tente un bilan, on voit donc que dans le premier tiers du deuxième millénaire, les nomades d'origine amorite vivaient largement en symbiose avec les sédentaires, que ceux-ci fussent d'origine acadienne ou qu'ils soient des amorites sédentarisés, et peu à peu s'élabora dans l'ensemble du Proche-Orient, des rives de la Méditerranée jusqu'au golfe arabo-persique, une culture mixte. Certes, son expression écrite resta acadienne, mais dès qu'on aborde d'autres domaines culturels, comme la musique, on voit l'influence des traditions amorites, comme l'a bien montré Nelle Ziegler. Si nous revenons maintenant à notre point de départ, la construction du mur par les rois d'Ur se pose donc la question de ce qu'on appelle traditionnellement les invasions amorites. Quelle était la région d'où venaient les Amorites et pourquoi ont-ils constitué au XXIe siècle une menace contre le pays de Sumer ? Le récit traditionnel des assyriologues repose sur plusieurs éléments. Le premier tient à l'étymologie du nom même des Amorites. Le terme qui les désigne sert en effet à noter un point cardinal, à savoir l'Ouest. Et par ailleurs, les sources du XXIVe siècle mentionnent à plusieurs reprises le Djebel Bishri, comme le lieu d'affrontement entre les rois d'Akkad et les Amorites, d'où l'idée que les Amorites seraient venus de l'ouest, descendant la vallée de l'Euphrate et se heurtant au royaume d'Ur, là où les cours de l'Euphrate et du Tigre se rapprochent au niveau de l'actuel Bagdad. Pourquoi les Amorites se seraient-ils mis en route ? Les facteurs évoqués traditionnellement sont multiples. On évoque bien sûr la démographie, qui aurait produit un trop-plein de population par rapport aux ressources. Les changements climatiques sont également mis à contribution, mais les recherches récentes n'ont pas permis de caractériser un épisode particulièrement sec qui aurait privé les nomades de leur pâturage traditionnel. Et enfin, à juste titre, on a mis l'accent sur l'affaiblissement interne du royaume d'Ur, où la première expérience de centralisme bureaucratique a fini de manière catastrophique. Il y en a eu d'autres exemples depuis, mais celui-là est le premier que nous connaissions. Récemment, Piotr Mikhalovski s'est livré à une déconstruction de ce récit. À vrai dire, il n'est pas le premier. Avec la découverte des archives de Marie, notre connaissance des nomades, je l'ai dit, s'est accrue de manière considérable et dès les années 1950, Jean-Robert Cooper avait mis en garde contre une lecture simpliste des vagues migratoires en Mésopotamie. Il fustigea la représentation alors dominante de l'histoire du Proche-Orient qui aurait été rythmée par quatre vagues d'invasions sémitiques, celle des Acadiens au milieu du IIIe millénaire, celle des Amorites vers 2000, celle des Araméens 1000 ans plus tard et finalement celle des Arabes à partir du 7e siècle de notre ère. Et il l'écrivait, en réalité, à la base de cette conception schématique se trouve l'invasion islamique que l'on a projetée, pour ainsi dire, dans les périodes antérieures. C'est à la seule image de l'expansion de l'islam que l'on sait représenter les migrations successives des Sémites. Il y a là une grave erreur de méthode qui a faussé notre perspective. Mikhalovski, quant à lui, n'a pas eu tort de rappeler que les discussions mélangeaient souvent des notions différentes. L'identité ethno-linguistique, d'une part, l'organisation tribale, d'autre part, et, pour finir, le genre de vie nomade ou sédentaire. Mais une fois cette déclaration de méthode énoncée, l'analyse des données n'est pas toujours évidente. Prenons un terme central dans les archives de Marie, celui de Hana ou Hanoum. Eh bien, certains ont cru qu'il s'agissait de la région autour de la ville de Terka, au nord de Marie. Jean-Marie Durand et moi-même avions pensé, il y a une trentaine d'années, qu'il s'agissait d'une désignation ethnique, avant de conclure que le mot décrit le genre de vie des nomades, ceux qui vivent sous la tente. Et quand Mikhalovski fustige l'emploi du terme bédouin pour tenter de traduire le terme de Hanoum, il prend le risque de la paralysie, car à ce compte-là, traduire « charoum » par « roi », c'est bien dangereux, vu le risque d'association anachronique que l'emploi d'un tel mot comporte. Après tout, le roi Zimrilim de Marie avait sans doute peu de choses à voir avec notre Louis XIV, et pourtant, il faut bien traduire. Mikhalovski a eu raison de souligner que les Amorites qui ont été en contact avec le royaume d'Ur étaient pour la plupart situés dans la vallée de la Diyala, donc au nord-est et pas à l'ouest. Mais cela ne nous indique pas leur origine ultime. Son souci majeur a été de minimiser l'importance des Amorites à l'époque d'Ourtroi. Selon lui, il n'y eut guère d'infiltration et le rôle joué par les Amorites dans la chute du royaume d'Ur a été mineur. Alors, si on fait un parallèle avec la situation actuelle de notre pays, eh bien, il est clair que l'ampleur des discussions est sans commune mesure avec le nombre de migrants effectivement accueillis en France. Et on peut se dire qu'un historien futur qui analyserait cette situation pourrait en conclure que la vague migratoire en Europe autour de 2015 est un mythe. Mais il ne faut pas oublier que notre voisin, l'Allemagne, a accueilli environ 1 million de personnes. Donc il y a quand même une certaine réalité. Ce n'est pas une vague qui a submergé, mais 1 million, ce n'est pas non plus un nombre négligeable. Donc c'est toujours la question de savoir, quand on dit « pas de grande vague », qu'est-ce qu'on entend et quelles sont les conséquences. Et lorsque Michalowski a refusé, par exemple, de prendre en considération le titre de chef amorite, Rabian Amourim, que prenaient les rois de Larsa au début du deuxième millénaire, il me semble nier l'évidence, c'est-à-dire l'arrivée d'un certain nombre, qu'on ne peut pas quantifier malheureusement, d'un certain nombre d'Amorites dans le sud de l'Irak vers 2000. Michalowski reconnaît par ailleurs qu'il y a eu, aux alentours de 1900, la création d'un grand nombre de petits royaumes dont les souverains sont clairement d'ascendance amorite. Or, on ne voit pas, à cette époque qui est beaucoup mieux connue que l'an 2000, de grands mouvements de population à ce moment. Et donc, il semble qu'on ait affaire à la prise de pouvoir par des chefs d'origine amorite qui appartenaient à des groupes présents en Mésopotamie depuis des décennies et que l'affaiblissement du royaume d'Issine, qui avait succédé à celui d'Ur, a conduit à s'installer dans toute une série de villes, Sippar, Babylone, Kish, Kisoura, Uruk, etc. Donc, ça n'est pas immédiatement après 2000 que les Amorites ont pris le pouvoir, Larsa constituant à cet égard une exception. Et le même phénomène eut lieu à peu près au même moment dans la vallée de la Diyala, où se multiplièrent de tout petits royaumes dirigés par des dynastes amorites au détriment des Chnouna. Malgré le scepticisme à la mode, il m'a semblé qu'on pouvait bel et bien trouver la trace de migration amorite dans les noms de lieux, un phénomène que j'ai proposé de décrire comme toponymie en miroir. En effet, dans les textes du XVIIIe siècle, des mêmes noms de lieux se retrouvent à de grandes distances. Par exemple, Apoum désigne à la fois la région de Damas en Syrie occidentale et aussi la région autour de Choubat el-Nil en Syrie du nord-est. Terka est une ville du Moyen-Euphrate, mais il y a une autre Terka qui se trouve dans la région de la Diyala. Et enfin, Yamoutbal est le nom d'une région au sud du Jebel Sinjar, donc à cheval sur la Syrie orientale et l'Irak, avec des localités nommées Khouratsanoum, Kaspanoum, Lakouchi, Ratsoum, Razama et Tilla. Or, il existe une autre région nommée Yamoutbal, beaucoup plus au sud, près de Larsa, et où on retrouve les mêmes sites toponymes. Ça ne peut pas être un hasard, et il y a beaucoup d'autres exemples. J'ai donc proposé de voir dans ce phénomène la trace des migrations amorites, les nouveaux arrivants donnant aux endroits où ils s'établissaient les noms de leur localité ou région d'origine, selon une pratique bien connue. Au total, avec le mur des Amorites, édifié par les rois d'Ur, on a affaire à l'exemple le plus ancien d'édification d'un mur dans le but explicite de repousser des migrants. Et on voit que le succès à court terme de l'entreprise ne dura guère et que la Mésopotamie fut bel et bien en partie amoritisée dans les siècles qui suivirent. Contrairement aux hantises de certains lettrés sumériens, les nouveaux arrivants ne se livrèrent pas au pillage et la civilisation mésopotamienne ne disparut nullement sous leur coup. Elle fut au contraire enrichie par cet apport, comme le montre par exemple le développement sans précédent de la littérature akkadienne qui eut lieu à l'heure. Je vous remercie de votre attention.